Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui est donc cette voyageuse du soir? Une femme mystérieuse, comme il se doit. Tout commence sur une terrasse, et puis par un accident ou un crime. Bon, un crime serait mieux, bien sûr, et plus naturel, vu le titre de la série très connue et le titre de l'œuvre très connue qui fut diffusée le 3 juin 1958 sur France 2 régionale. Vous avez vu le film de Truffaut? Eh bien, écoutez l'adaptation pour la radio du même roman et notez bien les propos du détective. Il n'y a pas assez de gens vraiment laids, ça aiderait tellement la police à reconnaître les criminels qui sont beaux.
Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous La mariée était en noir de William Irish, adapté par Pierre Roland, avec Louis Arbessier, Roger Carrel, Rosie Wart, Henri Virlogeux, Jean Brunel, André Vard, Marie-Jeanne Gardien, Jacqueline Rivière, Jean Berthaud, Jean Ozen, Lisette Lemaire, Jean Mauvais, Lucienne Givry et la petite Marie Martin.
Je m'appelle Wenger. Ralph Wenger, oui. Il y a 25 ans que je suis inspecteur de police à New York. Mais peu d'affaires m'ont donné autant de fil à retordre. Juste 2 ans que ça a commencé. Exactement. Dans la nuit du 3 au 4 juin.
Venez vite, venez vite. Allez chercher un policeman.
Oh, dis donc, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi là?
Oh, dis donc, et pourquoi qu'il y a un flic qui monte la garde devant ce tas de journaux là?
C'est pas des journaux en tas, petit. Regarde mieux, c'est des journaux étalés.
Oh, on voit quelque chose de noir qui coule d'en dessous.
S'il faisait jour, tu verrais que c'est quelque chose de rouge.
4h30. Il y a des types qui commencent leur journée en finissant leur vie.
Allez, en arrière, oui. Allez, en arrière. En arrière. Laissez passer.
Oh, par quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Inspecteur Wenger.
Bonjour, inspecteur.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un particulier qui est tombé du 17e étage. Faut croire qu'il avait bu un coup de trop.
Mais non, inspecteur. Je vous assure que le fiancé de ma fille n'était pas ivre. Ken Bliss était un homme distingué. Et tout le monde sait que les hommes distingués peuvent boire du whisky toute la nuit, sans être ivre. Oh, le cher garçon était si heureux, si heureux. Et voilà ce qui est arrivé. Oh, c'est lamentable.
Oui, c'est terrible. Oh. Permettez-moi de vous poser une question encore.
Oh non, plus rien. Plus rien, ne me demandez plus rien.
Remettez-vous, voyons.
Oh, mais peut-on se remettre d'un coup pareil? Rendez-vous compte, inspecteur. J'ai une fille qui s'appelle Marjorie Elliott. Elle est fiancée avec un jeune homme distingué qui s'appelle Ken Bliss.
Oui.
Je suis heureuse, ma fille est heureuse, son fiancé est heureux. Le fiancé tombe dans la rue et voilà tout le monde malheureux. Non, pas le fiancé, et encore, on ne sait pas. Comment s'y retrouver dans tout ça?
Oh, madame, madame Elliott, il faudrait pourtant que vous me disiez...
je suis incapable d'articuler une parole. Non, non.
Regardez. Regardez. Ceci ne vous rappelle rien?
De quoi? Mais quoi donc?
Regardez.
Oh, tulle noire.
Vous savez d'où elle vient, cette écharpe?
Quelle question! Mais des grands magasins Bonnevie de l'air. 20 dollars, vous me direz, c'est pas donné, mais c'est une broderie de jet, et ça s'est distingué.
Madame...
Oh, quand la vendeuse me l'a montré, j'ai bien failli me laisser tenter. Heureusement, j'ai choisi celle de dentelle pactée. Regardez, inspecteur, ça a du chic aussi.
Oui.
Oh, heureusement, sans ça, nous aurions été deux à porter la même écharpe, ce qui est toujours très désagréable.
Vous avez donc remarqué qu'une des invitées portait une écharpe de ce genre?
Oui, elle l'avait posée sur ses cheveux. Des cheveux d'un blond extraordinaire, de l'or vivant. Oh, c'était ravissant. Et habillée. Imaginez-vous, une robe du soir en faille noire, le corsage ajusté, sans épaulettes, avec ça un amour de jupe, toute l'ampleur derrière. Quelle distinction.
Oui, en effet, ça devait être joli. Mais la femme...
Oh, belle comme un ange, je vous dis.
Son nom?
Ah, c'est ça, je ne sais pas, inspecteur.
Vous recevez chez vous des gens que vous ne connaissez pas?
Mais il y avait la famille du jeune homme, ses invités. Comment se rappeler tous les noms? Non, je ne sais qu'une chose, c'est que cette personne portait tous les noms. Non, je ne sais qu'une chose, c'est que cette personne portait une écharpe semblable à celle que vous me présentez.
Mais on ne peut plus semblable, madame Elliott, puisque c'est son écharpe.
Je parie que la dame l'a laissé tomber en s'en allant.
Oui, du 17e étage, entre les doigts crispés de Ken Bliss.
Ken Bliss, c'est vrai. Oh, le beau, le beau.
Assez.
Quoi, assez?
On ne pleure plus.
Oh, bon.
Vous n'avez même pas eu l'idée de demander autour de vous si quelqu'un connaissait cette femme?
Mais si, inspecteur, j'ai eu cette idée. Mais personne n'a été capable de me renseigner. Oh, ces messieurs lui ont mené la vie dure. Chaque fois qu'il essayait de sortir sur la terrasse pour prendre le frais, il y en avait toujours trois ou quatre qui couraient derrière. Mais ils ne tardaient pas à revenir l'air penaud. Je ne sais pas comment elles s'y prenaient pour les remettre à leur place, mais c'était vite fait. Oh, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait, inspecteur, c'était impayable.
Ken Bliss était-il tombé accidentellement? Quelqu'un l'avait-il un petit peu aidé à perdre l'équilibre? La belle inconnue, par exemple? À l'aube, j'interrogeais encore les invités, fripés, poussiéreux, écroulés. J'ai rarement vu une aussi belle collection d'imbéciles. Rien à en tirer. Un seul fut capable de me dire des choses intéressantes. Un grand garçon mince tiré à quatre épingles, mais large d'épaules. Un vernis mondain, mais qui pouvait craquer facilement pour laisser apparaître la brutalité. Plutôt sympathique. Ivre, certainement. Il fallait être connaisseur pour s'en apercevoir, et je me disais que si Ken Bliss était un gaillard de cette trempe, ce n'était certainement pas le whisky qui avait provoqué sa chute.
J'étais son meilleur ami.
Et vous affirmez qu'il ne connaissait pas cette femme?
5 minutes avant de mourir, il l'affirmait lui-même.
Racontez-moi donc ça, monsieur Corret.
Marjorie Elliott était allée reconduire les invités jusqu'à l'ascenseur. Ken Bliss et moi, nous sommes sortis sur la terrasse, histoire de nous aérer un peu. Nous parlions. Et soudain, nous avons senti derrière nous une présence. Nous sommes retournés. La femme. Comme elle regardait Ken Bliss avec insistance, j'ai dit « Tu la connais ?»« Jamais vu », il m'a répondu. Ken Bliss n'était pas menteur, et puis on n'a pas honte de dire qu'on connaît une belle fille, même si on est amoureux d'une autre.
Hein. Elle était si belle, vraiment?
Ah, sensationnelle, oui. Alors j'ai dit à Ken, si par hasard c'était la visiteuse du soir...
La visiteuse du soir?
Ah oui. Oui, parce qu'un soir, il y a de ça 2 bonnes semaines, une femme s'est présentée au domicile de Ken. Il était sorti. Elle avait essayé de soudoyer le portier pour qu'il la laisse pénétrer dans l'appartement, mais le brave homme est méfiant, alors elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle souhaitait. Et depuis ce jour, il nous arrivait de parler de la visiteuse du soir.
Le portier a bien dû vous donner un signalement?
Oui, mais rien de commun avec des anciennes relations féminines de Ken Bliss, qui en avait eu pas mal d'ailleurs.
Continuez donc à me raconter ce qui s'est passé sur la terrasse avant l'accident. Mmh. Enfin, ce que vous avez vu. Donc, vous étiez là tous les deux bavardant, la femme à quelques distances.
Oui.
Bon. Ensuite?
Ensuite, c'est bien simple. Une belle fille inspecteur, c'est pour moi comme un véritable aimant.
Ouais, vous avez commencé les travaux d'approche.
Oui, ça n'a pas été précisément un succès.
Hein. Ah!
Première fois qu'il m'arrive une algarade pareille. Non, j'avais dû débuter par quelques paroles pas très corrosives, du genre « le temps est beau pour la saison ». Enfin, elle n'avait pas l'air très disposée à répondre. Tout de même, elle se tourne vers moi. « Voulez-vous être gentil ?» Bon, ça, je ne demandais pas mieux, parmi. « Allez me chercher un grand verre d'eau fraîche. » Alors, rapide comme l'éclair, je me précipite vers le buffet, j'en viens. Je lui tends le gobelet et... Savez-vous ce qu'elle a fait?
Elle le prend.
Oui. Et posément, avec un sourire, elle verse l'eau par-dessus la balustrade.
Non.
Elle me rend le verre vide en disant « Allez m'en chercher un autre ». Je l'aurais étranglée, moi. Heureusement pour elle. Bliss s'est interposé.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Oh, la seule chose qui me restait à faire, lui tourner le dos et rentrer dans le salon. J'ai pas l'habitude de faire le clown pour amuser les pépés, moi.
Vous avez laissé votre ami Ken Bliss en tête-à-tête avec l'inconnu.
Oui, oui.
Personne d'autre sur la terrasse?
Personne. Alors, qu'est-ce que vous en concluez, inspecteur?
Conclure, monsieur Corret? Comme vous y allez. Je commence à peine à supposer.
Naturellement, vous voulez rien dire.
Monsieur Corret, bon, ce n'est pas que j'éprouve le besoin de me confier à vous plutôt qu'à un autre, mais je puis vous l'avouer en toute sincérité, je n'ai encore trouvé aucun indice sérieux.
La femme en noir?
Son comportement m'intrigue. Elle a été la dernière à voir Ken Bliss vivant. Elle a disparu sans laisser de traces au moment précis où le drame venait de se produire. Elle n'a pas cru devoir rester comme les autres pour répondre à mes questions.
Oh, bah, ça l'aurait peut-être embêté de vous confesser que personne ne l'avait invitée et qu'elle s'était faufilée chez Elliot pour passer la soirée et boire un verre à l'œil.
Si elle avait vu votre ami Ken Bliss piquer une tête par-dessus la balustrade, vous pensez qu'elle n'aurait pas poussé de cri? Imaginez même qu'elle vous ait vu le balancer dans le vide. Hein? Elle serait restée neutre?
Non, mais dites donc, accusez-moi pendant que vous y
êtes. Non. Si vous aviez envie de supprimer un homme, je suis sûr que vous choisiriez un autre procédé.
Ah, bah, probable.
Ça pourrait plutôt être une idée de femme. Si celle dont vous m'avez parlé, dont tout le monde m'a parlé, se présente aujourd'hui ou demain pour se justifier, il y a beaucoup de chances pour que la thèse de l'accident soit la bonne. Sinon...
Alors vous croyez que la dame en noir...
Faites-nous confiance, monsieur Corret. De toute façon, nous l'aurons.
Vantardise. Des jours passèrent. Nous ne l'hûmes pas, nous n'hûmes personne. Dans notre métier, on vit bizarrement. Sans horaire, sans habitude, au petit bonheur. La nuit, quand c'est possible, on essaie de dormir. Moi, je ne dors jamais très bien. Pendant des heures, je me démène dans un monde imaginaire où je retrouve des gens, des choses, des faits de ma vie journalière. Les mêmes gens, les mêmes choses, les mêmes faits, mais... arrangé, combiné, enchaîné autrement, avec autant de logique que dans la vie réelle. Avec moins d'extravagance que dans le rêve, des images surgissent, des formes s'animent, avec une telle force, une telle netteté, de véritables visions. Par exemple, celle que j'eus le lendemain de la mort de Ken Bliss. C'était sur la terrasse des Elliott. Vaguement éclairé par la lune, un homme de taille moyenne, svelte et musclé, en tenue de soirée, il se tenait debout, bien droit. Une femme venait vers lui. Le buste seulement était visible, la robe étant noire. Le buste d'une blancheur crémeuse qui semblait flotter au milieu des ténèbres. Des épaules magnifiques. Un visage dont on ne pouvait distinguer les traits. La femme ôtait l'écharpe légère qui lui couvrait les cheveux. Comme par jeu, la tenait un moment déployée dans la brise. Soudain, poussait un léger cri. L'écharpe s'était envolée. Sous la corniche qui servait de base à la balustrade, on apercevait un lambeau sombre qui battait comme une aile au-dessus du vide. Sous la corniche, le long du mur, il y avait un câble électrique. L'écharpe s'était accrochée là. L'homme ne pouvait faire autrement que d'intervenir. Je le voyais distinctement s'agenouiller, avancer le haut du corps, sous l'appui. Se tenant d'une main à l'arête de la pierre, se pencher au dehors, se pencher encore, dangereusement. Déjà, ses doigts se refermaient sur l'étoffe fugitive, et derrière lui, la femme, les bras tendus, les mains ouvertes. Un geste brusque, un grand cri qui tombait au fond du noir. Feu Ken Bliss. Ken Bliss assassiné par cette femme? Quel mobile? Un crime sans mobile? Une femme sans visage? Des semaines? Des mois? Et il y eut l'affaire de l'hôtel Helena.
Le rêve de toute ma vie est entré dans ma chambre. Comme une personne naturelle. Je ne peux pas croire que c'est à moi que tant de joie arrive. Vous vous penchez vers moi. Vous me tendez un verre. Je sens votre souffle dans mes cheveux. Il y a une douceur dans la pièce. Comme un parfum d'œillet autour de moi.
Buvez.
Je vous vois plus. Plus très nettement. Qu'est-ce qui se passe? C'est la lumière qui vacille.
Ce n'est pas la lumière. C'est vous.
Ah, oh, qu'est-ce que j'aime? Ah, ça me déchire là-dedans. Ah, je vous en supplie. Appelez un médecin.
Il arriverait trop tard.
Ah, je souffre. Oh, je souffre, c'est épouvantable.
Oh, un mauvais moment à passer.
Je voulais tant vous rendre heureuse.
Je suis au comble du bonheur.
Vous écoutez aux portes?
Ne croyez pas ça, madame. J'arrive à l'instant.
Qu'est-ce que vous voulez?
J'apporte cela pour Mitchell.
Qu'est-ce que c'est?
Du bouillon bien chaud que j'ai mis dans une thermos. Vous voyez? Quand je lui ai téléphoné à 5 heures, j'ai compris qu'il n'avait pas envie de me voir. Il m'a dit qu'il avait la grippe. C'était vous qui l'avez, d'après ce que je vois. S'il a la grippe aussi, le bouillon lui fera du bien. Qu'il le boive bien chaud. Je suis sa bonne amie, mais... Je comprends les choses, vous savez.
Mmh. On vous a vu entrer en bas?
En bas?
Au bureau de l'hôtel.
Ben oui, c'est sûr.
Bon. Alors ne perdez pas une minute, redescendez vite.
Avec le bouillon?
Dites au bureau que vous n'avez pas pu entrer dans sa chambre, qu'il ne vous a pas répondu, que vous êtes inquiète. Insistez pour que quelqu'un monte et vous ouvre la porte. Vous avez compris?
Rien du tout. Pourquoi?
Votre ami est mort.
Mort? Mort de la grippe?
Je viens de le tuer. Oh. Et si vous ne descendez pas tout de suite, c'est vous qu'on va accuser. Vous, je ne vous connais pas, je ne vous veux pas de mal. Il n'y a rien contre vous. Eh bien, allez! Restez pas planté là comme une idiote.
Oui, 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 oui.
Mettez ça de côté pour l'analyse, Monsieur Myers.
Bien, chef.
Mais je peux dire d'avance le résultat. Elle lui a filé une pincée de cyanure dans son verre. Comment se fait-il qu'à part l'ami de la victime, personne ne l'ait vu, cette garce-là?
Oh, ça c'est pas malin, monsieur l'inspecteur. Elle venait par l'escalier de service et la petite porte derrière donnait sur elle. Tous les locataires de l'hôtel le savent.
Vérifiez ça, Myers.
Entendu, chef.
Vous dites, monsieur l'inspecteur... Ami, monsieur Mitchell voit garçon là? Mais moi aussi, vous savez voir aussi comme ça?
Vous l'avez vu? Quand? Aujourd'hui?
Ah non, pas aujourd'hui, monsieur. 15 jours à peu près. Oui, 15 jours comme ça. C'était l'après-midi. J'étais en train de faire la chambre à monsieur Mitchell. C'est le 19. Toujours pareil, je termine après 14 qui vient après 17. Ah, mais faut pas me demander pourquoi un ordre comme ça. J'en sais rien. De l'habitude, oui, peut-être.
Peut-être aussi une question de pourboire.
Oh, question de pourboire. Oh, monsieur l'inspecteur, question de pourboire à l'hôtel Helena. À l'hôtel Helena, pourboire, c'est comme neige au mois d'août, oui. C'est comme ça. Alors moi, en train de passer balai à France sous l'armoire de monsieur Mitchell, il y a une dame dans le couloir, belle, mais belle, belle, comme elle a dit, l'amie de monsieur Mitchell. Oui, comme ça. Alors elle s'arrête, elle regarde par la porte ouverte. Cherchez M. Mitchell, que je lui ai demandé. Non, qu'elle répond avec un joli sourire. Je suis venue voir une amie. Elle n'était pas chez elle. Alors elle entre, elle regarde tout partout. Elle a dit, on peut toujours connaître le caractère de quelqu'un rien qu'en voyant sa chambre.
Oui.
Elle regarde encore, elle a dit si, elle a dit ça. Et c'était vrai, vous savez, elle parlait bien. Ça me faisait distraction. Et voilà qu'elle regarde des photos des femmes sur le mur. Alors elle dit comme ça. Oh, romanesque, ce monsieur-là. Il aime les femmes qui ne sont pas comme les autres. Et puis c'est comme ça, voilà.
C'est comme ça quoi?
Eh bien, elle est partie. Et jamais revue. Et c'est tout, monsieur l'inspecteur.
Maigre la récolte. L'affaire de l'hôtel Helena, 6 mois après l'affaire Ken Bliss. Aucun rapport à première vue. Pourtant... Ces femmes,
ces femmes qui venaient repérer leur victime 15 jours avant, qui se trouvaient là au moment de la mise à mort. À noter en passant que celle de l'hôtel Helena n'était sûrement pas une maniaque de crime. Oh non, elle aurait très bien pu faire entrer cette grosse gourde avec sa bouteille thermos dans la chambre et lui faire son affaire. Même, ça lui aurait donné un peu plus de temps pour s'évaporer. Deux femmes qui étaient peut-être une seule femme. Belles. Toutes les deux. Il n'y a pas assez de gens vraiment laids. Ça aiderait tellement la police à reconnaître les criminels qui sont beaux. Oui, mais les criminels laids. Zut. Des mois passèrent encore. Et il y eut l'affaire Morand. Encore une sinistre histoire. Le dénommé Morand, employé dans une administration de la banlieue, avait été retrouvé asphyxié sous l'escalier de son pavillon. Une espèce de réduit étroit et sans air, hermétiquement clos, dont l'unique porte ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Circonstance particulière, le soir où la chose s'était passée, le dit Morand était seul chez lui avec son petit garçon âgé de 5 ans. Dans l'après-midi, Madame Morand avait été appelée par télégramme auprès de sa mère, qui avait le cœur fragile et habitait à 4 heures par le quart dans un petit patelin du Connecticut. À l'arrivée, une surprise l'attendait, agréable. Sa mère ne s'était jamais aussi bien portée. Une colère aussi, car elle était vraisemblablement victime d'une absurde plaisanterie. Une pointe d'inquiétude, peut-être. Au petit jour, elle était de retour à la maison. La calme maison où tout reposait. Tout et tous. Le fils dans son petit lit, le père dans son petit placard. Définitivement. Des affaires aussi bêtes, c'est toujours assez bon pour moi. Est-ce qu'on dérange la police pour des niaiseries pareilles? On n'assoit pas un gosse de 5 ans sur la chaise électrique. Et sans aucun doute, c'était le chérubin Maison qui, pour s'amuser, avait bouclé l'auteur de ses jours et l'avait oublié là. Il me vint même à l'idée qu'une aventure semblable devait être à l'origine de l'expression « faire des niches ». Mais le temps étant mal choisi pour la philologie, je jugeais plus opportun de fureter à travers la maison. Le défunt devait être un homme d'intérieur accompli. Entre l'heure du dîner et celle de sa mort, il avait trouvé le moyen de laver et de ranger toute la vaisselle. Je montai pour visiter les chambres. En examinant le lit du Loupio, que personne n'avait eu l'idée de refaire, je découvris une lettre qui était épinglée à la couverture. Dans son affolement, la pauvre Madame Morand n'avait pas vu. 4 lignes d'une écriture élégante, qui ne donnait pas la solution des problèmes. Très importante pourtant, car elle prouvait l'intervention d'une tierce personne, probablement une femme. Une femme? Tiens, tiens. Un seul témoin à se mettre sous la dent. Et quel témoin? Cookie Morand, le fils de la victime. Bon Dieu, j'aime 100 fois m'y interroger un vieux cheval de retour couvert de tatouages et de balafres qu'un momignard de 5 ans avec des cheveux bouclés et des joues à fossettes.
Dis, monsieur, c'est vrai que t'es policier?
C'est vrai, Cookie.
C'est toi qui tues tous les gangsters? Tagada! Poum, poum!
Des fois, enfin pas tous les jours.
T'en as tué beaucoup?
Oh, pas mal.
Combien?
Je te le dirai, Cookie. Mais toi, il faut que tu me dises qui est-ce qui a fait entrer ton papa dans le petit placard, là, sous l'escalier.
Pourquoi que tu veux savoir ça?
Parce que c'est mon métier.
Mon papa, où qu'il est d'abord? Tu peux me le dire?
Mais en voyage, loin.
Il est parti dans le train ou dans l'avion?
Dans l'avion.
Il reviendra quand?
Non, écoute, Cookie, je ne répondrai pas à tes questions si tu ne réponds pas aux miennes.
Alors donne-moi un bonbon rouge.
Et tu me diras qu'est-ce qui a fait entrer ton papa dans le placard?
Oui.
Oh, ah, tiens, tiens ton bonbon. Ah. Et alors, Cookie? Qui?
Je sais pas, peut-être qu'il jouait.
Qui jouait? Avec toi?
Moi, j'étais couché.
Ben, s'il ne jouait pas avec toi, avec qui pouvait-il jouer?
Ben, avec la dame.
Quelle dame?
Ben, la dame qui jouait avec moi. Dis, toi, tu joues avec ton petit garçon?
Ben, ça m'est arrivé.
Alors, tu joues à cache-cache avec lui?
C'est à cache-cache que tu as joué avec la dame?
On s'est bien amusé.
Et ton papa a joué aussi?
Non, il était dans son fauteuil, il lisait son journal.
Je parie que tu as été te cacher dans le petit placard.
Ah. Oui, et la dame ne savait pas ouvrir la porte. C'est papa qui est venu lui montrer.
Et comment elle s'appelait, la dame?
Et toi, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Wenger. Et la dame?
Et toi, un petit garçon, comment qui s'appelle?
Diable de gosse. Je lui posais une question, il m'en posait trois ou quatre. Il me fallut toute une après-midi pour obtenir le nom de la dame, Miss Baker, et apprendre que la dite Miss Baker, c'était tout simplement l'institutrice de Cookie à l'école maternelle.
Miss Baker, pleurer ne sert à rien.
Vous venez de me dire, Miss Baker, je vous arrête. C'est la première fois que ça m'arrive, alors...
Je ne vous ai pas rudoyé.
Mais croyez-vous que si j'étais allée chez les Moreau ce soir-là et que la chose se soit produite sous mes yeux, je serais partie sans prévenir personne?
Je n'affirme pas que votre rôle se soit borné à une aussi stricte neutralité.
Quoi? Vous m'accusez d'avoir assassiné Monsieur Moreau? Mais voyons, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais mis les pieds dans sa maison avant que vous m'y fassiez venir vous-même.
Malheureusement, le petit Cookie vous a reconnu.
Oh, mais écoutez, enfin, comment ne me reconnaîtrait-il pas? Il me voit 5 jours sur 7.
Il a reconnu en vous non seulement l'institutrice qu'il voit en effet 5 jours sur 7, mais aussi la dame qui est venue un soir et a joué à cache-cache avec lui.
On voit bien, Monsieur l'inspecteur, que vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'esprit d'un enfant de cet âge. L'imagination et la mémoire n'ont pas de démarcation précise. Écoutez, par exemple, quand il a dit « Miss Baker, vous avez mis vos lunettes aujourd'hui », enfin, vous auriez dû essayer de savoir pourquoi il faisait cette réflexion.
Tout simplement parce que la dernière fois qu'il vous avait vu, vous ne les portiez pas.
Mais je ne puis m'en passer, n'importe quel oculiste vous le confirmera.
À la bonne heure. Vous avez vite fait de recouvrer votre combativité naturelle. Mais croyez-moi, tant que vous ne m'aurez pas apporté un alibi à toute épreuve, le reste sera secondaire.
Vous
oui, que vous aviez dîné au petit restaurant suédois et qu'ensuite vous aviez terminé la soirée au cinéma standard. Oui. Quand vous m'avez quitté, votre premier soin a été de courir pour prévenir le gargotier et la caissière du cinéma. Seulement, la plupart des gens ont horreur de se voir compromis dans une affaire criminelle. Ils vous ont trahi.
Oh, j'avais été les voir par pure précaution. Je ne croyais même pas que vous iriez vérifier. Vous aviez l'air si gentil quand vous me posiez ces questions.
Est-ce que vous vous imaginez, Miss Baker, que je fais bavarder les gens uniquement pour me renseigner sur leur goût en cuisine ou leur film préféré?
Je n'avais pas pris la chose au sérieux. Je m'étais imaginé qu'il s'agissait d'un accident, que l'enfant n'avait pas sur le moment compris l'importance du danger et qu'ensuite, pour ne pas être grondé, il avait raconté que j'étais là. Je pensais qu'une simple affirmation de ma part l'amènerait à avouer son mensonge.
Mais enfin, Miss Baker, vous n'étiez pas chez Morand, vous n'étiez pas au restaurant suédois, vous n'étiez pas au cinéma standard. Où étiez-vous?
Il va bien falloir que je vous le dise, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. J'étais chez mon mari.
Votre mari?
Oui. Il s'appelle Larry Stark et demeure 420 Massey Avenue. J'ai préparé le dîner et nous avons passé la soirée ensemble.
Quelle nouvelle invention!
Mais vous pouvez vous renseigner!
Soyez tranquille. Mais je me demande pourquoi vous ne m'avez pas dit ça tout de suite.
À l'école où je suis institutrice, on n'engage que des célibataires. Oh, cette histoire-là me coûtera sans doute ma situation.
Ouais. Maintenant, je dois vous conduire au grand patron. Il a manifesté le désir de faire votre connaissance. Mais un bon conseil, ne parlez pas de mari.
Mais pourtant...
Miss Baker, il est un peu tard pour faire une déclaration nouvelle. Il est toujours dangereux de changer de train entre deux gares. On risque de tomber sur la voie. J'écoute.
Inspecteur Wenger?
Oui. Qui me demande?
Moi. Et vous, plus un mot.
Qu'est-ce que...
Vous venez d'arrêter l'institutrice de l'école maternelle, Miss Baker. C'est bien exact, n'est-ce pas? Je vous appelle pour vous dire qu'elle est absolument étrangère à ce qui est arrivé à Morand. Absolument innocente, vous m'entendez? Je vais vous donner quelques détails précis. Le billet épinglé à la couverture du petit Cookie était assez rédigé. Vous avez un très gentil petit garçon, Madame Morand. Vous le retrouverez sain et sauf à votre retour. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il lui arrivât le moindre mal. Miss Baker ne connaît pas ce texte, dont vous n'avez communiqué la teneur à personne. Ah, autre chose. Le poste de radio des Morand est un Philco 327. Le journal que lisait Morand était le New York Times. Je lui ai servi des œufs brouillés pour son dernier repas. Vous avez pu retrouver les coquilles.
Myers, vite. Cherchez à savoir d'où l'on me téléphone.
Vous mettez votre main devant l'appareil pour souffler à quelqu'un qu'il cherche à savoir d'où je parle. Non, non, ne perdez pas votre temps, je vais raccrocher. Ah, une dernière preuve. Demandez donc au petit Cookie si son institutrice avait mis ses lunettes quand elle est venue jouer avec lui, ou si elle ne les avait pas mises. Une astuce. dit que l'enfant refuserait peut-être de m'accepter comme étant son institutrice. Je ne lui ressemble guère, même quand je me coiffe et m'habille comme elle. Il fallait pouvoir expliquer au père que le petit ne me reconnaissait pas parce que c'était la première fois qu'il me voyait sans lunettes. Ah, c'est pas mal imaginé, n'est-ce pas? Vous n'y auriez pas pensé? J'espère que ce truc pourra vous servir. Ne me remerciez pas, c'est inutile. Et si vous voulez me faire plaisir, relâchez bien vite cette pauvre Miss Baker. Adieu. Et bonne chance, inspecteur Wenger.
Le clic de l'appareil me fit l'effet d'un coup de cravache à travers la figure. Bien entendu, quand on arriva dans le drugstore de la 23e rue, où la femme m'avait parlé, il n'y avait plus personne. Encore une qui savait se volatiliser comme dans les contes de fées. Les nuits qui suivirent ne m'apportèrent ni sommeil, ni oubli. Voyons, voyons, voyons. La vengeance. La vengeance, oui, mais de quoi la vengeance? Vengeance Kenblis, vengeance Mitchell, vengeance Morand. Trois fois vengeance en un an et demi. Même minutie dans la préparation, même sang-froid dans l'exécution, même adresse dans la fuite, même criminel. Quelques empreintes relevées ça et là en faisaient foi. Pour les criminels comme pour les innocents, le temps allait son petit bonhomme de chemin. Dans mon classeur, il y avait trois dossiers. Sur la couverture de chacun, la mention « Affaire en suspens ». Trois dossiers qui dormaient plus profondément que moi la nuit où ce coup de sonnette me tira brusquement de mon lit.
Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur l'inspecteur Wenger.
C'est l'inspecteur, vous voulez voir, ou monsieur Wenger?
L'inspecteur.
Ben alors adressez-vous au bureau central de la police. Ici, c'est le domicile particulier de monsieur Wenger, et monsieur Wenger a le droit de dormir la nuit, de faire semblant.
Mais je suis correct.
Comment vous seriez le président à Essel Roy en personne?
Je suis correct, vous avez interrogé chez les Elliott la nuit où Ken Bliss est mort.
Ah, entrez. Comment avez-vous eu mon adresse?
Ah, ça, je vous dirai ça une autre fois. Mais si vous vous intéressez toujours à l'affaire Kenblis.
Si je m'y intéresse.
Bon, alors habillez-vous au galop et venez avec moi. Je vous raconterai dans la voiture. Dépêchez-vous.
Vous dites que c'est un peintre. Comment l'appelez-vous?
Ferguson.
Ferguson.
L'autre jour, sur son chevalet, je remarque une toile qui était en train. Avec lui, on comprend toujours ce que ça représente, alors j'aime ça. Une femme vêtue d'une peau de léopard. Enfin, quand je dis vêtue, pas trop, mais une beauté, inspecteur. Éblouissante. Elle avançait, tendant son arc, prête à décocher sa flèche.
Bien une chasseresse.
Ou juste. Alors, ce qu'il y avait d'épatant dans le tableau de Ferguson, c'est que quand on le regardait, on avait l'impression que la bougresse marchait sur vous. La flèche allait sortir du tableau et vous transpercer le cœur.
C'est un as, votre ami. Hein?
Oh oui. Chaque fois qu'il apporte une couverture à un magazine, il touche dans les $1,000.
$1,000,
oui, oui. Alors, je regardais, et plus je regardais, plus le visage de la déesse me rappelait quelque chose. Je dis à Ferguson que j'aimerais bien faire la connaissance du modèle et il se fiche de moi. Alors, nous parlons d'autre chose et je n'y pense
pas. Mais attention, il fait rouge.
Mais oui, ah ben, ne craignez rien, je l'ai vu.
Ah oui, on l'a vu.
Et tantôt, j'apprends qu'une bande de copains a décidé de monter chez Ferguson pour lui faire payer le vin rouge. Bref, c'est la spécialité de la maison. Et quand j'arrive, la fête bat déjà son plein. Et qu'est-ce que j'aperçois dans un coin?
Diane Chasseresse en chair et en os.
Oui, et autour d'elle, des gars émoustillés qui essaient de se faire valoir. Alors visiblement, ces galanteries d'un goût douteux n'enchantent pas le modèle, mais enfin, elle voudrait bien s'échapper, mais comment, hein? Je réussis à me glisser auprès d'elle, je lui offre de favoriser son évasion. Je suis son ami, je l'emmène, personne ne peut m'en empêcher. Ferguson voudrait bien la retenir, mais elle lui dit quelque chose à voix basse et il nous laisse partir.
Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire?
Oh, que s'il réussissait à se débarrasser de ses énergumènes, elle reviendrait poser le soir même ou quelque chose de genre. Enfin, il se faisait un tel bruit autour de nous que je peux avoir mal entendu. Hein. Mais moi, je pensais que Ferguson risquait bien de l'attendre jusqu'à demain matin. Quand je tire une fille.
Non, mais je vous crois sur parole.
Alors nous voilà dans la rue. Je la regarde bien en face et je lui dis que je suis certain de l'avoir déjà rencontrée. Elle me répond que si je l'ai trouvé que ça, enfin. Pourtant, elle a une drôle de façon de me regarder. Je la pousse vers la voiture et elle se laisse faire.
Félicitations. Vous l'amenez chez vous?
Je l'amène chez moi. Elle se met à fureter dans tout l'appartement. Mon bureau semble surtout l'intéresser. Moi, je l'observe. Je me dis, enfin, je finirai bien par trouver. Ça, je finirai. Vous savez, c'est quand on a un mot sur la langue, là.
Oui, je sais.
Alors, elle s'est mise à ouvrir mes tiroirs, à les refermer l'un après l'autre.
Oui, il y a de ces petites femmes nerveuses qui cherchent à passer le temps. Attention, attention, mon vieux. Qui cherchent à passer le temps comme elles le peuvent en attendant le moment où vous allez les prendre dans vos bras.
Oh, mais dites donc, inspecteur, vous avez la pratique, oh, aussi. Hein.
N'exagérons rien.
Et puis ?
Et puis elle tombe sur le tiroir où est mon automatique, elle le prend.
Mais attention, le feu rouge !
Mais merci, je l'avais pas vu.
Non, mon vieux, attention.
Elle le prend et je lui dis poser ce machin-là, il est chargé. Elle répond, alors n'essayez pas de me l'enlever. C'est comme ça que les accidents arrivent.
Très juste.
Elle parle toujours ma fille, je m'approche d'elle par derrière, je la prends dans mes bras.
Et alors ?
Et ben alors ça n'a pas pris.
Ça ne lui disait rien ?
Bah il faut croire. Elle m'a dit ne m'embrassez pas, imbécile.
Imbécile ?
Imbécile, oui. Ça n'est pas l'amour que je cherche. Elle reculait vers la porte avec le pistolet braqué dans ma direction et quand je suis sorti, elle était déjà dans l'escalier. Elle avait laissé l'arme sur le seuil. Je l'ai appelée par-dessus la rampe, je lui ai crié « Mais je finirai bien par savoir qui vous êtes. » Vous n'avez pas idée de ce qu'elle m'a répondu.
Ma foi.
Vous avez de la chance de ne pas encore y avoir réussi.
Oui, je commence à croire qu'en effet, vous avez eu de la chance.
Oh, bah, j'étais fou furieux.
Vous l'auriez étranglé.
Enfin, qu'une poule vous envoie sur les roses, ça peut arriver, mais qu'après elle fasse cocorico. Alors
oui, oui, oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh ben, je me suis couché, pas question de dormir. Hein.
Je connais ça.
Je fumais une cigarette, j'éteignais la lumière, je rallumais, cigarette, obscurité. Et alors, tout d'un coup, ça a été comme un éclair. Mais parbleu, je savais très bien que je l'avais vu quelque part. C'était.
La femme en noir.
Ben, comment le savez-vous ?
Ben, voyons. Tout amateur de mystère l'aurait deviné depuis longtemps. Il serait surpris, même si je ne vous demandais pas ce que vous avez fait de l'automatique.
Pour les empreintes.
J'espère que vous n'avez pas trop tripoté depuis qu'elle l'a tenue entre ses mains.
Je l'ai remis dans le tiroir de mon bureau directement. Vous pourrez le faire prendre quand vous voudrez. Trop heureux de vous rendre service.
Trop aimable, merci.
Mais probablement, vous n'en aurez pas besoin. Si tout va bien comme je le pense, avant 5 minutes, vous serez en grande conversation avec la mignonne. Nous approchons.
Oui. Corée, dites. L'arc, comment était-il ?
L'arc, quel arc ?
Mais vous m'avez dit que la chasseresse avançait l'arc tendu. Le modèle, posait-il avec un arc véritable ?
Bah oui, sans doute.
Oui, mais bon, et la flèche ? Une vraie flèche ?
Oui, Ferguson dit toujours que si les accessoires ne sont pas vrais, il perd l'inspiration.
Vain Dieu, foncez, mon vieux, mais foncez !
Mais non, il y a le feu rouge.
Mais on s'en fout.
Mais il y a un moteur qui siffle.
Non, mais pas, on arrangera ça demain.
Allez, si
mais fonce, mon vieux, fonce, on y est.
On va peut-être déranger Monsieur Ferguson, il sera pas content.
Ouvrez cette porte.
Ah, bah, puisque c'est la police qui m'en donne l'ordre, moi, je veux bien. Voyez bien, il y a de la lumière dans l'atelier.
Oh, inspecteur, regardez.
Ah oui, Diane a détruit son portrait. Il était trop ressemblant.
Oui, elle est partie.
Hein. Ah, nous arrivons trop tard.
Mais derrière le paravent, vous croyez ?
Oh ! En plein cœur, Corée. Diane a décoché sa flèche. Oh. Dites-moi, Corée.
Oui.
N'avez-vous jamais connu un dénommé Mitchell ?
Non.
Et Morand ? Oui, Morand. Ce nom ne vous dit rien non plus ?
Absolument rien, non.
En tout cas, vous avez connu Ken Bliss et vous avez connu Ferguson.
Ah bah pas en même temps. J'ai rencontré Ferguson dans un cocktail il y a à peu près 8 mois, enfin, c'est-à-dire bien après la mort de Ken Bliss.
Oui.
Mais je sais que les deux hommes s'étaient connus autrefois.
Ils ne se voyaient plus ?
Non.
Fâchés ?
Non, je ne crois pas. J'étais perdu de vue. Tout simplement, Ken Bliss était à la bourse, Ferguson peignait ses tableaux aux deux mondes, hein, c'est pas...
Ils ne s'étaient pas liés à l'occasion de leur travail, alors quoi, le sport, le bistrot ?
Autrefois, ils faisaient partie tous les deux du club du vendredi.
Club du vendredi, qu'est-ce que c'est que ce club-là ?
C'est pas un vrai club, non, ils se réunissaient avec d'autres garçons de leur âge. Le soir, quand ils avaient touché leur paye pour jouer au poker, boire ou chahuter, quoi. C'est le pauvre Ferguson qui m'avait raconté tout ça. Il avait acheté en commun une voiture et il roulait comme des fous à travers la ville.
Mais c'est prodigieusement intéressant ce que vous venez de me raconter.
Chinook avançait péniblement à travers la plaine neigeuse.
Monsieur Holmes ?
La plaine neigeuse.
Monsieur Holmes, il y a un monsieur dans la salle d'attente.
Son visage était pareil sous son capuchon de fourrure.
Ce monsieur insiste pour vous voir.
Miss Truslow, depuis combien de temps êtes-vous ma secrétaire ?
Depuis 5 ans, Monsieur Holmes.
Et vous ne savez pas encore que je refuse de recevoir les importuns.
Il a menacé de forcer la porte si je ne venais pas immédiatement vous prévenir.
Où est Sam ? Appelez Sam et dites-lui de jeter cet individu dans l'escalier. S'il résiste ou menace de faire du scandale, appelez la police.
Oui, mais Monsieur Holmes, ce monsieur, c'est la police.
Oui, que la police aille au diable, sans doute parce que j'ai arrêté ma voiture dans un endroit interdit. Et moi qui suis en train d'enregistrer sur le dictaphone le passage le plus important de mon roman. Miss Truslow, vous avez enfreint la règle inflexible que j'ai essayé de vous inculquer pendant... Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
5 ans, Monsieur Holmes.
Depuis 5 ans, donc je n'ai cessé de vous répéter que mon travail est une chose sacrée. La maison peut prendre feu...
Le feu, oui, je sais. Mais pour la police, vous ne m'avez jamais rien dit.
Et je ne vous le dirai pas. Je me vois dans l'obligation de me passer désormais de vos services. Demandez à Sam qu'il vous remette votre chèque et rentrez chez vous.
Monsieur...
Allez, Miss Truslow, allez. Ah, c'est ce monsieur. Je ne comprends pas votre insistance à pénétrer chez moi contre ma volonté, monsieur. De quoi s'agit-il ?
De votre vie.
Demain.
Je suis venu parler avec vous du club du vendredi, monsieur Holmes.
La police se dérange pour me rappeler mes frasques de jeunesse.
Vous souvient-il de ce vendredi mémorable entre tous où votre joyeuse association de bambocheurs fut mise en état d'arrestation pour ivresse, tapage nocturne et bris de glace?
Ce n'est pas une date historique.
Vous aviez lancé une bouteille vide dans une devanture et renversé une prise d'eau municipale sur le trottoir. Toute l'affaire est très bien expliquée dans les rapports de police.
Nous étions complètement ivres. Ça nous a coûté assez cher. 15 jours de prison, amende, dommages, intérêts, nous avons tout payé. Est-ce que la police nous réclame encore quelque chose ?
Combien étiez-vous dans la voiture ce soir-là ?
5, si mes souvenirs sont exacts.
Ils le sont. Et pourriez-vous vous rappeler les noms de vos compagnons ?
C'est loin, vous savez.
Vous ne les voyez plus ?
Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus.
Vous ne lisez donc jamais les journaux ?
Attendez, un nom me revient. Ferguson. Il était aux Beaux-Arts.
Et depuis, il s'est affirmé comme un peintre de talent.
Tiens. J'aimerais le revoir, ce vieux Ferguson.
Oh, difficile. Il est mort voici 8 jours.
Mort ?
Assassiné. Morand. Vous avez connu Morand ?
Oui. Oui, gentil garçon aussi.
Mort, il y a 6 mois.
Oh, c'est effrayant, ça.
Assassiné. Et Mitchell ?
C'était le barman, nous l'emmenions souvent avec nous.
Lui, cela remonte au mois d'octobre de l'année dernière.
Assassiné ?
Comme les autres. Et Ken Bliss.
Vous n'allez pas me dire que Ken Bliss...
Il est dans la terre depuis 20 mois. C'est lui qui a ouvert la série des assassinats. Vous étiez 5 dans la voiture. Il ne reste plus que vous. Quelqu'un s'était juré d'exterminer le club du vendredi.
Mais pourquoi ? Nous n'avons jamais fait de mal à personne. Nous étions jeunes, nous nous amusions. Oh, enfin, monsieur l'inspecteur, mais qu'est-ce que vous imaginez ?
Oh, moi, monsieur Holmes, je ne suis pas romancier. Heureusement, vous commencez à comprendre qu'en vous faisant perdre 1 heure aujourd'hui, je vais vous faire gagner assez d'années pour que vous enrichissiez la littérature américaine d'une 20aine de nouveaux chefs-d'œuvre. Alors, écoutez-moi.
Il serait superflu d'exposer mon plan en détail. Le lendemain de notre conversation, M. Holmes, écrivain de grand renom, quittait son appartement de la ville pour sa maison des champs. Chose remarquable, il n'emmenait pas avec lui le vieux nègre Sam, valet de chambre devenu factotum. Il était accompagné d'un nouveau domestique engagé à la dernière minute. Les gens du pays n'en furent pas tellement surpris. M. Holmes avait une réputation d'originalité solidement établie. On ne cria pas au scandale parce qu'il avait supprimé une barbe qui, naguère encore, faisait son orgueil, ou parce qu'il avait enchâssé son visage olympien dans l'armature de formidables lunettes noires. On attendait la remplaçante de Miss Truslow.
Je m'appelle Miss Kitchener. Je suis la nouvelle dactylographe que l'agence Trent envoie à M. Holmes.
Eh ben...
J'ai d'excellentes références.
Ah ben ça, j'en suis sûr.
Je puis me vanter d'avoir jamais fait la moindre faute d'orthographe ou de ponctuation, jamais.
Oui, mais tout de même, je ne croyais pas que la machine à écrire était inventée depuis si longtemps.
Mais vous voulez voir mes références ?
Oh, je ne suis pas le patron, moi je suis le valet de chambre.
Bien, en ce cas, veuillez prévenir M. Holmes que je suis arrivée.
Ah, pas encore. Le maître a encore droit à 10 minutes de sieste. À 4 heures exactement, je frappe à la porte de sa chambre. Il reprend le travail à 4h15. Il aura le temps de vous voir avant.
Oh, merci.
Surtout, ne vous asseyez pas sur ce fauteuil. Ah non, c'est son fauteuil.
Oui. Pardon.
Oui, il n'y a que dans son fauteuil que le maître trouve son inspiration. Ah, ne le déplacez pas. Il doit toujours être à la même place, exactement. À 3 pas de la fenêtre. L'axe du fauteuil parallèle à la ligne oblique de ce dessin du tapis. 1 millimètre d'erreur et le maître perd son inspiration. Voyons un peu si la table du dictaphone est comme il faut. Oui, le côté droit perpendiculaire au mur. À 12 centimètres de l'angle de la bibliothèque. Ah, et le pouf sur la lame de parquet qui craque. Un seul craquement, et voilà tout un chapitre par terre.
Oh, je voulais vous demander quelque chose, monsieur.
Mais allez-y, je vous en prie.
Avec monsieur Holmes, j'espère qu'il n'y a pas de danger.
Oh, non, il n'a jamais mordu personne.
Non. Comprenez ce que je veux dire. Avec ses secrétaires, toujours correct.
Ah, monsieur Holmes, c'est ordinairement un homme sérieux, Miss Kitchener.
Bien.
Soyez tranquille. Avec vous, il sera grave.
Vous êtes bien sûr, mon vieux Myers, que la secrétaire ne va pas rappliquer ?
Oh, pas de danger.
Elle est dans le petit bureau, bon. La chaste secrétaire. Elle promène ses doigts crochus sur le clavier de sa machine. Fortunée machine.
Myers,
oui.
Voulez-vous, mais doucement, hein, attention, oui. Voulez-vous aller là-bas, au râtelier, et prendre le plus doucement possible, je vous le répète, un fusil? Non, doucement, doucement. Là, là, oui, là.
Eh, dites, ça c'est bizarre, par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a de bizarre?
Au râtelier, il manque un fusil. Ben, vous savez, nous les avons comptés hier et...
Tiens, tiens. Oh, bizarre, en effet. Oh, regardez, Maïeus.
Oui, ça.
Regardez où il est, notre fusil.
Oh, ben, dites donc, mais comment l'a-t-elle fait tenir?
À l'intérieur de ces vieilles cheminées, il y a des crochets qui servaient jadis à pendre les jambons qu'on voulait fumer. Allumez le feu sous ce fusil qui est chargé et vous allez voir ce que ça donne.
Et pointez exactement sur le fauteuil.
Oh, cette femme est un vrai démon. Là, là, ça va, Maillère, ça va.
Miss Kitchener. Miss Kitchener.
Oui.
Ah. Entrez, Miss Kitchener. Ah, votre travail avance-t-il?
J'en suis à la moitié du premier chapitre.
Très bien. Asseyez-vous.
Merci.
Oui, je vous ai appelé parce que j'ai l'intention de changer le nom de l'un de mes personnages. Oui. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas?
Mais c'est votre fauteuil.
Oh, un fauteuil ou un autre. N'écoutez pas mon idiot domestique. Ah! Ah, vous êtes là, vous, Maillot.
Oui, maître, oui.
Non, bon. Mettez du bois dans la cheminée.
Bien, maître, bien.
Allez, chargez, allez, allez.
Oui, oui,
oui. Oui, n'ayez pas peur. Non, non. Oui, voyons. Comme il s'agit d'un roman d'aventure qui se passe dans le Grand Nord, il est nécessaire de trouver des noms canadiens. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez, Miss Kitchener? Vous êtes souffrante?
J'ai trop chaud dans ce fauteuil. Ce feu est...
Trop chaud? Oh, voyons, mais non, vous avez les mains glacées, vous tremblez. Non, laissez-moi au moins finir ce que j'ai à vous dire.
Non. Non,
restez où vous êtes. Vous avez peur, mais vous resterez là.
Laissez-moi!
Qu'est-ce qui vous fait donc si peur? Le fusil qui est dans la cheminée, le fusil qui est braqué sur vous? Oui, il y a de quoi avoir peur. Qui l'a placé là, ce fusil, hein?
Laissez-moi me lever!
Pas avant que vous m'ayez dit pourquoi vous avez fait ça.
Parce que je suis venu ici pour vous tuer, Holmes. Ah!
Il est évident que si je n'avais pas pris le soin de retirer la charge de plomb... Vous êtes une femme très courageuse, mais une charge de plomb dans la tête, pour une jolie femme. Car vous voilà redevenue celle dont on m'avait fait des descriptions si merveilleuses. Mes compliments pour le maquillage. Oui, allons. Allons, buvez, hein. Ça va vous remettre.
Oui, merci. Et maintenant, appelez la police. Je suis prête.
La police, c'est moi. Inspecteur Wenger. Holmes est en sûreté depuis plusieurs semaines. Oui, j'ai eu l'idée de me substituer à lui. Oh, ce n'est pas génial. Et vous voyez, je me suis même souvenu du truc des lunettes.
Oh, tout s'était si bien passé avec les quatre.
Oui, mais attention, le dictaphone enregistre.
Est-ce que vous me prenez pour une criminelle ordinaire?
Oh.
Oh, pensez-vous que j'ai l'intention de nier, de tricher? Je suis fière de ce que j'ai fait. Oui, j'ai poussé Ken Blee. J'ai empoisonné Mitchell. J'ai enfermé Morand dans son placard. J'ai percé le cœur de Ferguson.
Quatre erreurs, Madame Killeen.
Vous savez mon nom? Ah. Alors vous devez savoir aussi que j'ai été veuve le jour de mon mariage.
Je le sais. Oh, pas depuis longtemps.
Oui. Le prêtre venait de nous unir. Nous sortions de l'église, Nick Killeen et moi, heureux, marchant vers notre avenir. Soudain, d'une rue adjacente, cette masse noire surgit. À toute vitesse, elle est passée au ras du trottoir dans un bruit formidable. Et quand ils ont été passés, j'ai vu Nick effondré sur les marches, avec sur le blanc de la chemise cette tache rouge qui grandissait. Grandissait. J'avais retenu le numéro de la voiture. J'ai une mémoire folle. J'ai su qu'il s'agissait de cinq ivrognes qui se sont fait coffrer le soir même. Mais ils avaient si bien combiné leurs coups que la police n'y a vu que du feu.
Elle avait vu la police. Elle savait.
Elle savait quoi?
Le soir où Bliss, Mitchell, Morand, Ferguson et Holmes sont passés devant l'escalier d'église, ivres, entassés dans la voiture. Un homme était accroupi à une fenêtre du premier étage, dans la maison qui fait face au porche. Cet homme attendait votre sortie, un automatique à la main. Au moment où vous avez descendu l'escalier côte à côte, l'homme a visé Nick Killin et appuyé sur la détente. À ce moment précis, l'auto noir passait. La balle a touché le but, par-dessus la voiture. Une coïncidence extraordinaire, comme il ne s'en trouve pas deux en 1000 ans.
Et cet homme, vous allez me faire croire que la police l'a découvert? Arrêtez!
Il est en prison depuis 3 semaines, vous le connaissez.
Qui?
Il s'appelle Corin.
Corin? Oui, à 2 reprises je l'ai rencontré.
C'est la deuxième qui a été cause de sa perte, quand il m'a raconté que la femme mystérieuse, vous, que je recherchais depuis l'affaire Ken Bliss, l'avait tenu en respect chez lui, avec son propre automatique.
Lui! Et je l'avais là. Oh, comme c'est bête. Oui, vous dites, mais quelle preuve?
Je lui ai demandé de me confier son arme pour les empreintes. Il l'a fait, sans discuter. Le cher garçon avait seulement oublié que c'était avec cette arme-là qu'avait été tirée la balle extraite du corps de Nick Killin. C'est très bien organisé, la police, on a beau dire. Nous avons arrêté Corey, et il a bien été obligé d'avouer.
Mais pourquoi ce Corey a-t-il tué Nick?
Vous savez quelle était l'activité de Nick Killin avant qu'il tombe amoureux de vous?
Oui, je lui avais demandé de choisir, le gang ou moi.
Il était l'associé de Corey. Il y avait quelques cadavres entre eux. Des comptes pas très clairs. Julie Killin, vous avez exécuté 4 innocents.
Oh, inspecteur. Inspecteur, c'est atroce. Oh, c'est atroce. J'entends le cri terrible de Ken Bliss quand il est tombé.
Comment voulez-vous bien dormir quand on fait des métiers pareils? La nuit dernière, j'ai eu encore une vision effroyable. La cloche sonnait le glas. La porte de l'église s'est ouverte toute seule. Le cortège descendait les marches. Le marié, encadré par 4 gentlemen livides. 5 squelettes qui se désagrégeaient à chaque pas, jusqu'à n'être plus que des fantômes sans consistance. La femme restait seule, visible, vivante, vraie. De lourdes chaînes fixées à ses chevilles et à ses poignets alourdissaient sa marche. Un crépuscule sanglant, de longs voiles sombres qui flottaient. La mariée était en noir.
C'était les Maîtres du Mystère, une émission de Pierre Billard et Germaine Beaumont qui proposait sur la chaîne France 2 régionale « La mariée était en noir » de William Irish, adaptation Pierre Roland, avec Louis Herbessier, Roger Carrel, Rosy Vart, Jean Brunel, André Var, Marie-Jeanne Gardien, Henri Vire-le-Jeu, Jacqueline Rivière, Jean Ozen, Lisette Lemaire, Jean Mauvais, Lucien Givry. Réalisation Pierre Billard. Première diffusion le 3 juin 1958.